Les semaines s'enchaînent et cette saison radiophonique également, hein, puisque une saison radiophonique, elle est comme les enfants. Elle ne démarre pas en janvier jusqu'à 31, du 1er janvier au 31 décembre, mais de début septembre jusqu'à fin juin.
On est sur l'année scolaire.
Juillet-août, on fait comme la 7e compagnie, on va dans les lacs et puis on va nager, chef.
En fait, nous sommes scolarisés, nous sommes des scolaires.
Voilà, nous sommes encore des scolaires. Et puis voilà, tranquillement, en mai, fais ce qu'il te plaît, on ne va pas tarder à y être.
Et bonjour Philippe Subercase, d'ailleurs
bonjour
Diego Arabal.
Bonjour Philippe.
Voilà. Et alors aujourd'hui, vous n'avez pas d'auteur, mais vous allez quand même nous présenter des livres.
Alors, voilà, tout à fait. Je vais vous présenter un livre cette semaine, un livre la semaine prochaine. Alors en fait, on ne peut pas arriver à avoir l'auteur parce que le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une auteure qui est allemande. Et j'ai trouvé que c'était un livre superbe. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai une question à vous poser à tous les deux.
Oui.
C'est est-ce que vous aimeriez connaître le nom et l'emplacement des îles abandonnées de par le monde entier pour les visiter ou mieux pour y faire une retraite ? Alors, j'ai commencé par vous, Diego Arabal, parce qu'on le sait, vous êtes à la fois le doyen et dans le même temps, paradoxalement, le plus jeune marié de cette émission littéraire. Donc, c'est à vous que je vais poser la question en premier. Diego, est-ce que vous aimeriez connaître le nom et l'emplacement des îles abandonnées de par le monde entier pour les visiter ou mieux pour y faire une retraite ?
Et peut-être même pour m'y installer.
Ou pour vous y installer.
Non. Avec ma douce étendre.
Non, Diego, je vous rappelle qu'il faut un service d'urgence et de gériatrie pas trop loin. Et qu'il faut quand même calculer le temps d'intervention des secours au cas où. Parce que moi, je tiens à vous et je ne voudrais pas que vous soyez enfermé dans une île où, si vous faites le 18, il vous faut 4 heures avant d'avoir un premier pompier.
Voire plus, parce que vous allez voir que c'est des îles réellement abandonnées. Et vous, Philippe Subercase, est-ce que vous aimeriez connaître le nom et l'emplacement des îles abandonnées de par le monde entier ?
En fait, de plus en plus. Parce qu'en vieillissant, on s'aperçoit qu'effectivement, on passe à côté de beaucoup de choses. Et moi, j'adore la mer. Peut-être plus que la montagne, donc être dans une île, alors là, je serai au paradis.
Allez, je ne poursuis pas plus loin cette question. Alors, vu vos réponses à tous les deux, j'en viens au fait, c'est-à-dire au livre, à ce livre fabuleux que j'ai lu, que je m'en vais vous présenter, qui se nomme « Atlas des îles abandonnées » de l'auteure allemande Judith Schalansky, publié en France aux éditions Artaud. Je le précise, ça a été un succès de librairie en Allemagne. On ne penserait pas forcément que les gens auraient envie d'avoir un atlas des îles abandonnées. Et pourtant, alors je vais vous dire aussi où est-ce que j'ai déniché ce petit bijou. Tenez-vous bien, je l'ai déniché sur une île. C'est pas banal. Hein. Sur une île, à la librairie de l'île du lac de Vassivière. Alors je ne sais pas si vous connaissez le lac de Vassivière. C'est un lac qui est quelque part à la confluence de la Creuse, des départements de la Creuse, de la Haute-Vienne et de la Corrèze.
Dont on parlait la semaine dernière.
Exactement. Et dont je vous recommande tout particulièrement la visite parce qu'on peut en faire le tour à pied. Vous savez que je suis un marcheur invétéré. Et
à ce moment, il vaut mieux pas trop être marcheur.
tout à fait. Ouais. Il vaut mieux pas trop marcheur, exactement. Oui, c'est vrai.
Bon,
on ne parlera pas desquels. Voilà. Et on ne peut aller sur cette île qu'à pied, sauf les personnes effectivement qui y sont autorisées, c'est-à-dire les personnes qui possèdent la librairie. Et sur cette île, on trouve également donc un musée d'art contemporain. Un musée d'art contemporain de la Haute-Vienne, avec à l'intérieur effectivement une librairie. Et c'est là que j'ai trouvé Atlas des îles abandonnées de Judith Schalansky chez Artaud. Donc, vous m'avez bien dit que vous ne connaissiez pas ce lieu, Philippe Subercase et Diego Arabal. Donc, je vous recommande de la visiter. Alors, on va revenir à ce livre, Atlas des îles abandonnées de Judith Schalansky aux éditions Artaud. La particularité de cet atlas, c'est de raconter une anecdote qui est propre à chacune de ces îles. Ce n'est pas qu'un atlas. C'est l'angle d'attaque recherché par son auteur et ce livre en soi est un régal. C'est pour cela que je le présente aujourd'hui, même si son auteur ne peut être présente pour répondre à nos questions. Et je vous propose de lire l'anecdote de l'une de ces îles qui s'appelle, ce n'est pas un hasard, l'île de la solitude, la bien nommée. C'est en page 24. Et je vais vous lire effectivement ce que ça représente. Je vais à l'île 24. Vous entendez sans doute le bruit des pages qui tournent. Alors, l'île de la solitude, c'est une île russe, d'accord, qui se situe donc Dans ce livre, il y a les îles de l'hémisphère nord et les îles de l'hémisphère sud.
Donc là, c'est l'hémisphère nord, je suppose.
Voilà. Et je vais vous lire donc la particularité de cette île dans l'histoire, dans la manière dont elle est racontée. Solitude est dans les eaux polaires du nord, en pleine mer de Kara. L'île fait totalement honneur à son nom. Déserte, froide, murée dans les glaces d'hiver. Elle a une température moyenne de moins 16 degrés, qui peut monter un peu au-dessus de zéro l'été. Il n'y est âme qui vive. Une ancienne station se dissimule dans la neige. Ses bâtiments abandonnés qui donnent sur une langue de terre au-delà des marais givrés sommeillent au cœur de la baie. On découvrit un jour sur l'île une vertèbre cervicale de dragon préhistorique. Quelques années plus tard, un sous-marin allemand attaqué à la grenade, la station météorologique, détruisait les baraquements et tuait le personnel. L'opération Wunderland tirait sur Solitude, une des dernières actions du commando. Reconstruite pendant la guerre froide, l'île devient l'une des principales stations polaires du nom soviétique. Excite le nom dont l'avait baptisé le capitaine de Tromsø, l'île de la solitude devient en russe l'île de la retraite. Je vous parlais tout à l'heure, d'ailleurs, vous voyez à tous les deux, des retraites sur l'île. On n'y est plus voué à la solitude. On y purge en ermite ces années de pénitence glaciaire avant de regagner la terre ferme sanctifiée. Dans les baraquements de bois peints en verre, le gel a conservé les restes de provisions et les instruments qui mesuraient la pression atmosphérique, la température et la direction des vents. L'entonnoir qui recueillait les précipitations est enterré dans la neige. Le mur, à motif de palmier, s'orne d'un lénine à barbichette. Dans le journal de bord, sont rigoureusement consignés les travaux de maintenance du chef mécanicien et les niveaux d'huile et d'essence des différentes machines. Mais l'ultime mention se joue des colonnes. On a marqué au stylo rouge « 23 novembre 1996 ». Aujourd'hui, réception de l'ordre d'évacuation. Et vidanger les conduites et arrêter le générateur diesel. La station est 3 points de suspension. Le dernier mot est illisible. Bonjour la solitude. Voilà l'anecdote, voyez, qui est racontée. Ah oui, c'est un livre absolument formidable. Vous savez, la particularité des livres, et je pense que c'est ce qui fait la particularité de cette émission littéraire, c'est de nous emmener vers un ailleurs. Un livre, c'est un voyage, et vous allez voir qu'on va parler d'une autre île. Je vais vous parler de Sainte-Hélène. Ça vous parle, Diego Arrabal, Sainte-Hélène ?
Sainte-Hélène, oui, ça me dit quelque chose. Il y a un certain ex-empereur qui y décéda.
Philippe Subercase, ça vous parle ?
Je réitère les propos. D'ailleurs, en off, vous avez un peu recadré, puisque vous l'aviez toujours appelé empereur, et Diego, vous avez dit...
Ex-empereur.
Et
oui, c'est peut-être effectivement nostalgie. Donc effectivement, c'est sur cette île que Napoléon a vécu ses dernières années de vie, loin des siens et loin de la France. Il a justement quitté la France après avoir séjourné du 8 au 15 juillet 1815, on le rappelle, dans l'île d'Aix, petite île de Charente-Maritime au large de la presqu'île de Fouras, à proximité immédiate de Fort Boyard. Ça vous parle, Fort Boyard ?
Voilà.
L'île d'Aix est à côté de Fort Boyard. Il y a combien ? Il y a même pas un kilomètre, quoi. Il y a 500 mètres, effectivement, entre les deux. Je le précise, il reste encore la maison sur l'île d'Aix qui se visite, maison dont les pendules sont arrêtées à l'heure précise à laquelle est mort l'empereur. Alors, je le précise, je ne dis pas l'ex-empereur, l'empereur, puisqu'au moment où il est mort, c'était du présent. Mais je m'égare. Voici donc, en page 42, Sainte-Hélène, l'île où Napoléon mourut en exil. Une frégate est assurément trop petite, s'indignent les bonapartistes qui réclament une flotte entière. Il ne s'agit rien de moins que de réparer la fronde au Waterloo. Ce n'est pas le vieux compagnon Charon, mais le jeune prince de Joinville qui commande cette mission. Le convoi mortuaire est composé d'un commissaire royal, d'un prêtre, d'un médecin, d'un forgeron et d'un dessinateur. La suite d'honneur comprend quelques fidèles et des serviteurs du temps de l'exil. Tous ont pris la mer pour aller quérir la dépouille d'un homme que l'Europe voulait tenir à distance du continent. La frégate Bellepoule a été peinte en noir, tout exprès pour cingler vers l'île du défunt. Il a toujours échoué avec les îles. il n'a pas gagné de grande bataille navale, la perfide Albion. Ce n'est pas la liberté qui lui manquait sur cet îlot, mais le pouvoir, la perspective d'un retour sur la scène mondiale. Gardé par un régiment, entouré de ses fidèles traîtres, il résidait sur un haut plateau battu par les vents. Il était voué au martyr, attiré les disciples qui lui écrivaient des évangiles, et il jouait les Prométhées, enchaîné au rocher noir, en écoutant l'écho de son passé figé devenu partie prenante de l'histoire. À minuit précis, les soldats britanniques brisent une grille de fer et trois dalles qu'ils dégagent du sol. À la lumière des torches, ils sortent quatre cercueils d'acajou, de plomb, d'ébène et d'étain, encastrés les uns dans les autres. Ils ouvrent le dernier avec précaution et le docteur soulève le linceul blanc. C'est là qu'il repose, dans l'uniforme des chasseurs de sa garde, ses décorations sur la poitrine, son chapeau sur les cuisses, comme s'il dormait, calme, serein, le nez déformé, la barbe bleuâtre et les ongles longs, très blancs. Un corps asséché, momifié. Les perturbateurs de ce repos mortuaire sont choqués. Les fidèles pleurent. 43 hommes traînent le sarcophage sous une pluie diluvienne jusqu'à la route où on le hisse sur un corbillard recouvert d'un drap violet brodé d'abeilles d'or et d'un N en grande capitale. Trois jours plus tard, le 18 octobre 1840, l'ancre est levée. L'empereur rentre chez lui. Vous connaissiez cette histoire, Philippe Subercase et Diego
Pas
Arrabal.
Du tout, non, non.
Voilà.
Pas du tout, non.
C'est dans ce livre, vous voyez, que je l'ai appris, hein, je le répète, hein, Atlas des îles abandonnées. En fait, sur Sainte-Hélène, elle raconte, effectivement, la vie de Napoléon. Alors, je ne sais pas si vous le savez, c'est Jean-Paul Kaufmann, vous savez, cet ancien donc journaliste français qui a été emprisonné au Liban, donc qui a été détenu pendant des années, qui a écrit un roman qui s'appelle La Maison Noire de Longwood. La Maison Noire de Longwood, il y a été, c'est cette maison où a vécu Napoléon durant les dernières années de sa vie. On peut encore aller visitable aujourd'hui dans la partie anglaise de l'île, à Sainte-Hélène. Voilà. Et donc, elle raconte comment le 18 octobre 1840, l'empereur Napoléon rentre chez lui, donc 19 ans, après effectivement être mort en 1821. Voilà, aujourd'hui on peut le visiter hein, à Paris, hein, vous avez le sarcophage de Napoléon. Alors je ne me rappelle plus où il est, je ne sais pas s'il est au Panthéon.
Oui, il est aux Invalides.
Il est aux Invalides, oui, c'est ça. Il est aux Invalides, voilà, c'est ça. Il n'est pas rentré au Panthéon, me semble-t-il. Et donc voilà, c'est le 18 octobre 1840, voilà, qu'une troupe repart là-bas, à bord d'un bateau baptisé La Belle Poule, repeint en noir. Et dans ce livre-là que je vous présente, qui vraiment m'a plu, on ne peut pas voir l'auteur, voilà, vous avez effectivement tout un tas d'îles qui sont présentées de cette manière. Et qui présente une anecdote. Je vais vous en lire une autre.
C'est bien aux Invalides.
C'est bien aux Invalides. Oui, oui. Voilà, merci Philippe. D'habitude, c'est Diego Sarrabal qui, avec sa petite
tablette.
Ouais, exactement. Ouais.
J'avais pas besoin de la tablette.
Non. Et je m'excuse d'avoir vérifié.
Non, il faut.
Écoutez, nous présentons excuses publiques à Diego Arrabal. C'est bien aux Invalides, effectivement, que l'on peut voir le cercueil de Napoléon. Alors, je vais vous lire une autre île, parce que là, vous avez vu que je vous ai lu une première île russe, une deuxième anglaise.
Anglaise,
oui. Hein, et il y a une partie, alors, de mémoire sur cette île également, qui est une partie française. De mémoire. Et je crois que, d'ailleurs que la Maison Noire de Longwood, aujourd'hui, est gérée effectivement par l'ambassadeur de France.
Possible.
Sur place, voilà. C'est une particularité. Parce que je me suis renseigné après l'avoir lu, effectivement. Et c'est vrai que ce livre donne vraiment envie de le savoir. Je vais vous parler de l'île de Saint-Paul. C'est une île de 7 km² qui est dans l'océan Indien. Donc là, on part dans l'hémisphère sud. Et je vais vous lire l'anecdote qu'elle raconte sur cette île, parce que toutes les anecdotes qu'elle cite sont savoureuses. Le 18 juin 1871, un navire postal britannique, le HMS Megaera, s'échoue sur l'une des jetées naturelles de blocs rocheux à l'entrée du cratère. L'équipage naufragé gagne la terre où il est accueilli par deux Français. Originaire de l'île Bourbon, il ne parle pas un mot d'anglais. L'un a pour nom le gouverneur, il a 30 ans et une jambe percluse. L'autre, qui se présente comme le sujet, a 5 ans de moins et est en excellente condition physique. C'est un remarquable grimpeur qu'aucune paroi ne rebute, si raide soit-elle. Il fait faire de bonne grâce le tour de l'île aux naufragés, tandis que le gouverneur reste assis devant sa hutte, au bord du cratère. Le sujet qualifie sans désemparer le gouverneur d'homme extrêmement bon. Le gouverneur, lui, tient résolument son sujet pour un homme radicalement mauvais. Jamais deux créatures ne furent mieux assorties. Ils occupent ensemble une minuscule hutte de bois dotée d'une petite bibliothèque d'ouvrages français et depuis une éternité forment un couple inséparable. Leur tâche consiste à surveiller 4 petits bateaux amarrés dans le cratère, envahis par la mer, et à enregistrer les baleiniers pour un salaire mensuel de 40 francs. Mais presque personne n'accoste ici, tant cette région est redoutée pour ses terribles tempêtes et ses brouillards tenaces. Les canards, les rats et les chats sauvages sont les seuls animaux comestibles vivant sur l'île, et hormis une sorte d'épinard, ils n'y poussent que des lichens, des fougères et des broussailles. Une fois l'an, des colonies de pingouins viennent nicher dans les rares touffes d'herbe qui pointent entre les rochers. Ces oiseaux géants ont le poitrail blanc, le dos gris, les yeux d'un rose éclatant et une aigrette dorée sur le crâne. Ils ne sont nullement sauvages, mais leur chair est immangeable. Un mulâtre est censé avoir vécu ici jadis avec les deux Français. Le bon et le mauvais l'auraient tué, dégusté, et conserverait ses cendres dans cette hutte que le gouverneur surveille jour et nuit. Voilà les anecdotes, alors qui sont savoureuses, qui sont des histoires en tant que telles dont on pourrait se dire elles ne servent à rien. Et moi, ce qui m'a semblé et ce qui me semble très beau dans ce livre, c'est que toutes les anecdotes ne servent absolument à rien, et c'est ce rien qui les rend savoureuses.
Tout à fait.
Mais c'est pas la première fois que vous nous parlez de ce livret.
Ah oui.
Vous l'aviez déjà un peu présenté ou donné quelques anecdotes dans différentes chroniques.
Alors, ce qu'il faut dire sur le livre aussi, c'est qu'il y a cette partie où vous avez l'anecdote, mais en vis-à-vis, vous avez une carte de l'île correspondante.
Tout à fait.
Et en timbre, vous avez la position de l'île par rapport au continent de laquelle elle est la plus proche.
Par exemple,
il y a une île qui est visiblement au large de l'Amérique latine.
Tout à fait. Là, par exemple, c'est une île, c'est les îles Juan Fernandez au Chili. Donc, c'est l'île dite Robinson Crusoe, qui est espagnole, qui est anciennement l'Isla Mas a Tierra, je ne le prononce pas aussi bien que vous, Diego Arrabal, qui est hispanophone. Allez, vous voyez, par exemple, cette île à 150 km des îles Alexander Selrick, 630 km du Chili, 3770 km de Floreana, je ne sais pas où c'est. Et ensuite, il y a une aiguille du temps qui indique quand est-ce que des personnes y ont vécu. Et là, je vais vous lire un passage, vous allez voir, sur le séjour d'Alexander Selkirk, qui a séjourné sur l'île de 1704 à 1708. Et voyez, elle a retrouvé, c'est un travail énorme ce qu'elle a fait, de retrouver toutes ces îles. Je vous le lis. Le journal de Robinson Crusoe se trouve à Berlin, sur un rayonnage oublié de la Stadtbibliothek Preußischer Kulturbesitz, prétend David Calwell, du Musée national d'Édimbourg. Dans ce navire à livres, tout le monde s'affaire. Depuis 10 ans, les mêmes visages, derrière les encyclopédies, sous le pont supérieur, sous la terrasse au globe de taille humaine. Chaque table est un royaume insulaire. Tous viennent ici pour écrire une page entière par jour quand ça marche bien, une demi-phrase quand ça marche mal. Caldwell est resté un mois complet sur cette île. Tout ce qu'il y a trouvé fut un morceau de bronze anculeux de 1,6 cm de longueur qui se terminait en pointe. Il en est certain. Ce ne peut être qu'une pièce du compas d'Alexander Selkirk, un élément de ses instruments de navigation. Et ce journal, que le corsaire naufragé tenait dans sa solitude, a rejoint la collection du duc d'Hamilton pour être ensuite vendu aux enchères par ses descendants au jeune empire allemand. Le modèle du premier roman de langue anglaise. L'artifice de l'éditeur mêle vérité et fiction, Alexander est devenu Robinson, le cordonnier écossais, un fils de négociant de York qui défie les recommandations paternelles et les 4 ans et 4 mois, 28 longues années, la moitié d'une vie humaine. Le corseur Selkirk est maintenant le planteur Crusoe, que prend régulièrement l'envie impérieuse de partir vers de nouveaux horizons et, sitôt qu'il les atteint, le désir non moins pressant de rentrer au pays. Parfois, on entend tomber quelque chose dans les magasins. Et le soir, quand les travées se dépeuplent, les lamelles des stores des grandes baies pivotent à l'horizontale, striant la vue panoramique sur la place vide de la bibliothèque. Au rayon des manuscrits, on examine le fond. Un porte-parole déclare « Le 4 février 2009. Nous avons fouillé ces jours derniers tous les catalogues qui présentaient un intérêt et n'avons rien trouvé. Le journal de Selkirk n'est pas chez nous. C'est une quasi-certitude. » Comparé aux archéologues, les écrivains ont la part belle.
Très beau.
Voilà, ce très beau texte, vous voyez, qui est... Et tout le long, on a effectivement ce livre qui présente des anecdotes, qui est absolument fabuleux. Et je me disais, ça aurait été dommage que l'on passe...
À côté de lui.
L'émission, dans l'émission littéraire, un jour, un livre, un auteur, que l'on passe à côté, effectivement, de ce livre, alors, qui pour moi est véritablement original, puisque l'originalité, je trouve, de un jour, un livre, un auteur, c'est effectivement de présenter des livres qui ne sont présentés nulle part ailleurs. Moi, je l'ai trouvé tout à fait par hasard, je n'en ai entendu parler dans aucune radio, sur aucune télé, dans aucune émission littéraire, dans aucun journal, ni dans le monde des livres, ni ailleurs. Et vous avez, voilà, ce petit bijou. Alors qu'il y a la particularité, vous l'avez vu, Diego Rabal, en plus, on ne le voit pas parce qu'on est à l'antenne, c'est d'avoir été publié à l'envers.
Oui,
c'est une erreur d'impression.
Étrange.
C'est comme les timbres, vous savez, qui par moments sont publiés avec des défauts, qui deviennent très chers. Ben voilà.
Voilà.
Ce livre-là, il a cette particularité, effectivement, d'être voilà, un livre absolument fabuleux qui vous fait voyager à travers le monde, à travers ses anecdotes. Et très franchement, moi, je vous le recommande. Atlas des îles abandonné.
Oui.
C'est un... On voyage. On voyage et...
C'est une idée de cadeau.
Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. C'est une idée de cadeau à Noël, pour un anniversaire, pour une fête, pour faire plaisir, pour les gens qui aiment voyager, pour les gens qui, par moment, ne vont pas voyager parce qu'ils sont trop âgés, ils n'auront plus la ressource physique pour voyager. Et avec ce livre-là, vous leur offrez un passeport virtuel, et là, ils partent.
Mmh.
Et moi, je le dis souvent, le rôle de la littérature, c'est aussi de venir, de vous prendre par la main et de vous emmener, un peu comme Arthur Rimbaud, hein, qui écrivait des poèmes et voyageait depuis le grenier de sa maison quand il était enfant, quoi. Mmh. Et je trouve que franchement, c'est... Voilà, c'est... Le livre est formidable, comme l'a très justement dit tout à l'heure Diego Rabal, l'objet livre... On le dit souvent, est également très beau. Il est publié, donc des pages sont publiées en orange pour présenter la carte du monde. Et vous avez à chaque fois, comme il le disait, donc effectivement, vous avez côté gauche le texte que je vous lis. Et côté droit, on situe géographiquement l'île, effectivement, où est-ce qu'elle se situe dans le monde. Et moi, je trouve que c'est... Voilà, je vous le recommande parce qu'il y a vraiment les îles du monde entier qui appartiennent à tout un tas de pays, l'Australie, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie. Et la dernière que je vais vous lire avant qu'on rende l'antenne,
oui.
C'est Tristan d'Acunha. Ça vous parle, Tristan d'Acunha? Diego Rabal?
Oui, c'est quelque part dans l'océan Indien.
Ouais. Et il y a eu Philippe Subercase, ça vous parle?
Non, pas du tout.
Alors Tristan d'Acunha, je ne sais pas si vous vous rappelez ce livre d'Hervé Bazin. Les bienheureux de la désolation. Ça ne vous parle pas?
Non.
Hervé Bazin, c'était un écrivain des années 80, très connu hein, aujourd'hui, qui est un peu tombé dans l'oubli. Et en fait, il y a eu... c'est une île du Royaume-Uni. Et en fait, sur cette île, il y a eu une éruption volcanique. Et il a fallu évacuer l'ensemble de la population. Et ça a donné ce livre, Les bienheureux de la désolation. Il a fallu les rapatrier en Angleterre. Ce sont des sujets britanniques. Mais ils ont beau être sujets britanniques, ils étaient à 14 000 km de la Grande-Bretagne. Et du jour au lendemain, on leur a dit qu'il faut revenir. Ce n'était pas du tout chez eux. Et là, je vais vous raconter. Donc, l'évacuation a eu lieu entre 1961 et 1963. Et là, je vais vous raconter une autre anecdote, effectivement, sur cette île qui est une île britanniques. C'est sur les bateaux qu'on proclame les révolutions et sur les îles qu'on vit les utopies. Qu'ils doivent bien exister autre chose que notre ici-bas est une croyance rassurante. Tel est aussi le propos de deux livres indispensables aux bibliothèques des bourgeois éclairés. La Bible et l'île Felsenburg. Je précise, il y a une petite note qui le renvoie du traducteur en mettant « L'Insel Felsenburg, roman du XVIIIe siècle de Johann Gottfried Schnabel, très prisé des écrivains des Lumières, dépeignant la mise en œuvre d'une utopie sociale dans une île qu'il nomme Felsenburg. » Donc la Bible est l'île Felsenburg. Mais le paradis est fort lointain et il paraît plus aisé d'accéder au royaume des cieux qu'à cet îlot de l'Atlantique Sud, à cette république insulaire qui est une société de justes et le modèle d'un monde meilleur. La loi de ce pays sous cloche est simple et audacieuse. Tout le monde est égal, tout le monde partage, et un merveilleux patriarche veille sur tout le monde. Le bonheur se trouve dans la conjugalité et la monogamie. 9 tribus s'échangent des victuailles, les fruits et la vigne poussent librement. À l'intérieur des terres, des passages secrets traversent des grottes et une cascade. L'entrée n'en est permise qu'aux êtres bons, aux seuls élus. Tout méchant, tout mal intentionné, se noiera de toute manière dans la mer peu clémente. Mais qui accoste ici et qui souhaite y rester doit raconter sa vie comme si c'était l'histoire d'un étranger. Ceux qui ont échoué font toujours les meilleurs utopistes. Il y a un nouveau début possible, une vie fondamentalement meilleure, un autre moi. S'embarquer pour l'île Felsenburg, voici la solution, pense Arnaud Schmitt, qui croit l'avoir trouvée à Tristan d'Acunha. Car là-bas vécurent, 100 ans après l'apparition du roman de Johann Gottfried Schnabel, le patriarche William Glass et ses fidèles, sous les auspices du microcommunisme, sans prétention des Tristaniens, ainsi que l'avait prédit Schnabel. Arnaud Schmitt réclame une édition non expurgée de l'île Felsenburg et un bout de terrain sur cet îlot lointain. Mais ne devrait-on pas, à moi qui ai dévoilé tout l'intérêt, égal chanter les louanges de cette île la plus étrangère de toutes, me faire grâce de m'attribuer un coin où m'y installer ? Une vingtaine d'acres, tout près de la petite station radio, et une petite cabane en tôle ondulée de 80 mètres carrés. Je paierai, je taperai quelqu'un moi-même pour le voyage. Schmitt restera sur sa lande. La vigne ne pousse pas sur Tristan d'Acunha. Et l'île Felsenburg ne figure toujours pas sur les cartes. Voyez, ce qui est bien, c'est que à chaque fois, elle raconte un récit comme une nouvelle. Et ce livre se lit presque comme un recueil de nouvelles. Voilà. Vraiment, je vous le recommande. Atlas des îles abandonnées, de Judith Chalansky aux éditions Artaud, et vous aviez entièrement raison d'en faire la remarque tout à l'heure, Philippe Supercas. C'est vrai que ça faisait un moment que je vous parlais de ce livre et que je me disais, bon, on ne peut pas voir l'auteur, c'est dommage de ne pas en parler, ben voilà.
Vous l'avez fait.
J'ai franchi le pas aujourd'hui.
Mais oui.
Et on se retrouvera.
Vous avez franchi votre timidité pour nous en parler.
Légendaire.
Voilà.
Légendaire.
Hein. Fait, oui.
Ah ouais, tout
connu,
à fait légendaire.
Qui dépasse les frontières de Lourdes, et même des Hautes-Pyrénées, de la Bigorre.
Voilà.
C'est très très connu. Voilà. Je vous le recommande vraiment. Et je présenterai un autre livre pour lequel on n'a pas pu avoir l'auteur. Vous verrez, ça sera, on en parlera
la semaine prochaine.
Par exemple.
Par exemple, Gildas Chassebeuf, ça s'appelle Souvenir en cavale. C'est à la boîte à bulles et c'est un carnet de rencontres dans une maison d'arrêt.
D'accord.
C'est pas banal.
Non, c'est pas banal. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.